Bulle et reportage, principe actif.
Bulle et reportage.
Eh bien, bonjour, principe actif. Madame Duloir, coordonnatrice du dispositif Ulysse. Je suis donc à la conférence du réseau École Inclusive 27 et j'attends beaucoup de cette conférence. Bonne journée à vous, principe actif.
Je suis coordinatrice des actions en direction des personnes en situation de handicap à la ville d'Évreux. Cordo handicap à la ville d'Évreux. Aujourd'hui, on a accompagné la mise en place de ce colloque très concrète dans ce service et au bénéfice des personnes. On travaille des ateliers de sensibilisation dans les écoles de Évreux et EPN sur le handicap invisible. Donc en termes de... Là, on est sur le volet, on va dire, éducatif. Et là, nos groupes de travail qui comprend des personnes en situation de handicap, des professionnels du secteur du champ médico-social, des bénévoles des associations, on a mis en place des outils pédagogiques d'intervention et d'animation dans les classes qui va très concrètement présenter le handicap invisible aux enfants, mais aussi également aux enseignants. C'est vraiment... L'idée, c'est de travailler l'empathie, cette notion d'empathie, d'écoute et de compréhension de la différence et de savoir aussi quel regard on va porter en effet sur la différence.
Et de solutions aussi, je pense.
Et de solutions d'accompagnement de ressources. Tout à fait.
Merci, je vous laisse rentrer parce que...
Je vais accompagner une personne.
Exactement. Vous êtes là à quel titre ?
Alors moi je suis coordonnatrice dispositif Ulysse au Collège de Navarre et donc je coordonne 14 élèves en situation de handicap. Donc je viens un petit peu découvrir le réseau École Inclusive 27 que je ne connais pas du tout.
Oui, parce que Ulysse, on rappelle ce que c'est ?
Alors l'Ulysse, c'est unité localisée d'inclusion scolaire. Donc c'est dans l'école ordinaire, on accueille des élèves qui ont des troubles des apprentissages ou des troubles du spectre de l'autisme et on fait en sorte qu'ils soient inclus dans leur classe en adaptant leurs apprentissages.
Quel est le parcours pour que ces enfants soient pris en charge ou soient accompagnés ?
Eh bien, ils ont un dossier MDPH, la Maison départementale du handicap. Donc, il y a toute une notification, il y a des commissions faites avec les médecins, parcours très médical. Une fois qu'ils sont notifiés, ils sont mis dans un collège de secteur.
Donc, il faut d'abord commencer par un dossier MDPH. On rappelle ce que c'est que le MDPH ?
La Maison départementale pour les personnes handicapées, en situation de handicap.
Et ça s'adresse aussi aux enfants, donc ?
Bien sûr. Dès qu'il y a une suspicion d'un trouble, d'un handicap qui est invalidant pour la vie quotidienne ou pour la scolarité, un dossier médical est monté et est envoyé pour les commissions départementales de la MDPH pour une reconnaissance.
Je suppose que ça demande un certain temps.
Ça demande beaucoup de bilans médicaux et malheureusement, nous sommes un département qui est un peu en manque de professionnels de santé. Donc parfois, c'est un peu le parcours du combattant pour les parents avant d'avoir ces dossiers et cette reconnaissance.
Je discutais avec Dame tout à l'heure, en effet, qui disait que le département de l'Eure est un petit peu, en termes statistiques, on va appeler ça comme ça, un petit peu au-dessus des normes nationales.
C'est l'avant-dernier département en termes...
Ah, carrément ?
Oui, en termes de médecins.
Merci. Merci. On va peut-être se retrouver après.
Avec plaisir. Et il faut sans cesse innover et trouver des réponses adaptées à chacun d'eux. La grande difficulté de l'école inclusive, c'est que c'est surtout de l'humain sur de l'humain et de l'humain sur de l'humain fragilisé. Donc les réponses ne sont pas simples. On a augmenté le nombre d'AESH, on a augmenté la formation des enseignants aussi parce que ça, c'est un enjeu majeur, que les enseignants soient mieux préparés à accueillir ces élèves dans les classes. C'est pas simple. C'est pas notre métier premier. Pour autant, la formation doit permettre aux enseignants d'être un peu plus efficaces et un peu plus sereins face à la difficulté qu'on peut parfois rencontrer.
Voilà, je suis la représentante de l'éducation nationale sur le territoire de l'Eure et donc un acteur essentiel avec l'ensemble des partenaires qui étaient là ce matin pour travailler sur l'école inclusive et essayer de rendre plus accessible le droit à tous ces enfants.
Votre premier sentiment après cette demi-journée ?
C'est un sujet tellement sensible qu'on est souvent sur des interventions de la passion, parce qu'on est des passionnés, parce que derrière c'est de l'humain. Donc c'est souvent un sujet très fort, très passionné, mais c'est à une ambition que l'État doit avoir, que l'on doit tous partager. C'est ensemble, et seulement ensemble, qu'on y arrivera. C'est pas en se tirant les uns sur les autres qu'on fera avancer le système. Et cette réunion comme ce matin montre bien que dans le département de l'Eure, on est capable, ensemble, quelles que soient nos différences, quels que soient nos différends, de travailler dans le même sens pour le bien des élèves. Et ça, c'est extraordinaire.
Vous considérez que depuis les années où vous êtes à ce poste-là, vous avez cette fonction, qu'il y a eu des avancées, qu'il y a eu des évolutions ?
Terriblement. D'abord, j'en ai fait une priorité départementale. Hein. Vous avez vu, 32 Ulysse ouvertes en l'espace de 3 ans. C'est énorme. Une augmentation de plus de 40% du nombre d'AESH. C'est énorme aussi. Des expérimentations, le DAM, le DIN, le DAR. Enfin, on n'arrête pas. C'est une priorité et je l'ai montré, non seulement par les moyens que j'ai mis, mais par le financement aussi que l'ARS et le conseil départemental ont mis. Voilà.
Je voulais apporter quand même une petite touche positive, parce qu'effectivement, il y a beaucoup à faire et on est toujours dans le faire. S'agissant du sport, de tout ce qui est les aspects culturels et les arts, les professeurs s'adaptent de plus en plus, ça devient de plus en plus normal, et c'est ce qu'il faut de toute façon, une normalisation de l'acceptation du handicap. Là, très prochainement, on va avoir notre cross et on a déjà tout de suite réfléchi sur la façon d'accompagner les élèves à besoins très particuliers. On a aussi dans notre collège une Ulysse, donc forcément on veut inclure tout le monde dans le sport. Et donc on a déjà déterminé qui va courir avec qui pour accompagner, pour que tous les enfants puissent faire la course. C'est effectivement la même chose pour tout ce qui est les aspects culturels, hein, pour le théâtre notamment. On a des professeurs qui de plus en plus s'adaptent, c'est pas facile pour eux, c'est vrai. Il y a des besoins très particuliers de différents types, hein, des élèves qui sont officiellement reconnus, donc qui bénéficient effectivement des adaptations préconisées par les professionnels et c'est plus simple pour les enseignants de s'y appuyer. Mais on a aussi beaucoup d'enfants, on le sait, qui ne sont pas reconnus officiellement. Il n'en demeure pas moins pour les mettre de côté. Hein. On identifie très vite que les professeurs sont plus ou moins à l'aise là-dessus. Et on met des aménagements de ce qu'on appelle des aménagements de droit commun. Hein. C'est comme ça qu'on a appelé nous notre aménagement à l'interne. Donc on le fait. Mais c'est pas évident, c'est pas facile. Mais je voulais juste apporter cette touche positive en disant que les professeurs de plus en plus mettaient en place cette question.
Donc je suis Anne Terlez, je suis élue du canton de Louviers, de la ville de Louviers. Du canton de Louviers, je suis vice-présidente du conseil départemental en charge de l'autonomie, donc les seniors et les personnes en situation de handicap, de la santé et de la lutte contre les exclusions. Mon objectif à moi, c'est vraiment de faire en sorte que le département ait une politique la plus inclusive possible, en prenant en considération l'intégralité des parcours, l'intégralité des territoires, et soit en capacité d'accompagner, selon le projet personnel de l'enfant, du jeune, accompagné par ses parents ou pas, puis de l'adulte et jusqu'au vieillissement même de la personne en situation de handicap.
Et le département de l'Eure se situe où, si on a des statistiques ou pas, dans ce paysage d'inclusion ?
Alors, plusieurs éléments. Le département présente un taux de personnes en situation de handicap, adultes et enfants, qui est supérieur à la moyenne nationale. Voilà, on s'en rend compte par rapport au nombre de dossiers qu'on peut avoir à la MDPH. C'est pas des surnotifications. Voilà, c'est pas nous qui instruisons de manière, je sais pas, plus ouverte que d'autres départements. D'abord parce que la Caisse nationale solidarité autonomie cadre quand même les évaluations. On a des guides, etc. pour qu'il y ait une uniformité sur tout le territoire français. Mais donc c'est une spécificité de l'Eure, sans que je puisse d'ailleurs dire de manière épidémiologique pourquoi. Voilà, mais c'est comme ça. On a plus d'adultes et plus d'enfants en situation de handicap que la moyenne nationale, environ un point au-dessus. Une autre spécificité, c'est qu'on est en déficit de structures médico-sociales par rapport à d'autres départements. Ce qui veut dire que, alors là c'est peut-être un peu éloigné de l'école, mais en fait, en cascade, si les structures médico-sociales sont très pleines et qu'on manque de place, ça veut dire qu'en Ulysse, c'est très plein et on manque de place. Et les personnes qui devraient être en structure médico-sociale sont maintenues en Ulysse. Et donc ceux qui devraient rentrer en Ulysse ne rentrent pas en Ulysse, sont maintenus en milieu ordinaire avec AESH. Et donc voilà, on a un système qui est un peu embolisé avec des situations qui sont parfois critiques. Pour autant, d'une manière générale, il y a des efforts très substantiels qui sont faits en partenariat avec notamment l'éducation nationale et même de très belles expérimentations. Inspiré globalement des expériences anglo-saxonnes, je pense spécifiquement au Canada, avec des transformations de l'offre qui sont très intéressantes, c'est-à-dire plutôt que d'avoir une auxiliaire de vie scolaire attachée à un enfant, de manière mutualisée ou pas. Les Anglais, par exemple au Canada, il n'y a pas du tout ce système-là, ils n'ont pas du tout opté pour ce système, et donc ils ont plutôt opté pour des petits plateaux techniques avec ergothérapeute ou orthophoniste dans les écoles, et un métier d'ailleurs qui n'existe pas en France qui s'appelle orthopédagogue. Les enseignants sont formés et il y a cet orthopédagogue qui vient en appui des enseignants, mais donc c'est des plus petites équipes et du coup les enfants sont beaucoup mieux intégrés dans le système scolaire avec des performances scolaires qui sont beaucoup plus. Il y a des expérimentations comme ça aujourd'hui dans le département de l'Eure qui ont vocation, j'espère, à se dupliquer pour avoir un système beaucoup plus performant et inclusif.
J'interviens toutes les semaines, je suis en déplacement partout en France, dans les départements, sur les sujets comme l'inclusion scolaire, les atteintes au droit à l'éducation, sur les enjeux de protection de l'enfance en général et en particulier. C'est un vrai enjeu de société. Dans cette période de Jeux Olympiques qui ont été le plus inclusifs de l'histoire, il ne faudrait pas que sur le terrain, on ait ce gap ou ces contradictions, et on a encore beaucoup d'efforts à faire, malgré des progrès notables qui ont été mis en œuvre, que ce soit le nombre d'AESH, que ce soit le nombre de dispositifs ULIS, que ce soit les nouveaux appuis, les pôles d'appui à la scolarité, etc. Encore faut-il qu'il y ait les moyens et qu'il y ait aussi un changement de paradigme, puisque les AESH ne peuvent pas non plus être l'alpha et l'oméga de l'inclusion scolaire, et qu'il y ait un vrai changement de culture par la formation, par le décloisonnement, par l'intervention de plus en plus concrète des travailleurs sociaux, du médico-social et des professionnels dans l'école, et pas uniquement dans des lieux de pial ou des lieux où on va, qui de gestion de ressources humaines, mais vraiment que les instits et les profs ne se sentent pas seuls aussi. Et donc c'est une vraie acculturation, chacun doit faire cet effort-là, et c'est ça que je viens dire. Je crois que les gens en ont conscience. Je suis là pour rappeler les droits fondamentaux de l'enfant. Donc en matière d'inclusion scolaire, c'est bien entendu les lois récentes de 2005, de 2013, de 2019 sur l'inclusion scolaire, mais aussi ce que nous dit le comité des droits des personnes handicapées de l'ONU, pour lequel nous avons été entendus avec la défenseur des droits et moi en tant que défenseur des enfants, sur les progrès que l'État français doit faire. C'est la responsabilité de l'État français de tout mettre en œuvre pour une école non discriminatoire pour les enfants en situation de handicap.
Merci, parce que je crois que vous avez un déjeuner et un train derrière. Merci beaucoup, Monsieur Delamar. Merci.
Alors moi je suis Élise Sagert et je suis la présidente de l'association Préhendis 276. Nous on intervient déjà sur le territoire de l'Eure et de la Seine-Maritime. Ce qui était important aujourd'hui pour nous, en tout cas qui faisons partie du réseau inclusif, c'est plutôt d'expliquer en fait aujourd'hui que l'inclusion doit avoir des moyens humains et financiers pour permettre de se faire, puisque c'est pas naturel, on voit bien, c'est pas si simple que ça. Et aujourd'hui ce qui était important, c'est de bien comprendre aussi les aberrations donc des États, des institutions, et nous ce qu'on espère surtout c'est de pouvoir prôner le travail ensemble. Mais la transversalité est hyper importante, c'est-à-dire qu'on est dans des institutions où il y a l'éducation nationale, il y a la MDPH, il y a le département, il y a l'État, et il y a les familles, et il y a l'école, et nous en fait quand on est parents, pour le coup, on est confronté à être un boomerang, je sais pas si tu es d'accord avec moi, on est un boomerang entre les thérapeutes, la maîtresse elle a dit de vous dire ça, mais le thérapeute oui, mais elle va pas m'apprendre ou quoi que ce soit, et en fait les parents sont sur la balle de ping-pong en fait sur la prise en charge de leurs enfants, alors que normalement on devrait être plutôt se dire on se met tous autour d'une table et on solutionne le problème.
Et l'enfant dans tout ça?
Voilà. Et bien justement c'est ce qu'on essaie vraiment de défendre, d'avoir un enfant différent déjà, c'est pas un choix, hein, c'est un deuil à faire. Mais ça peut arriver à n'importe qui, et ça aussi il faut le savoir. Et donc en effet, en fait, on nous rajoute de la peine à la peine. Et l'enfant dans tout ça, c'est une énorme culpabilité. Moi, je sais que personnellement, mais on l'a tous vécu, hein, de se dire, hein, mais maman, si j'avais été différent, est-ce que tu crois qu'on aurait pu, t'aurais pas eu ça à gérer? Moi, je dis toujours à ma fille, de toute façon, si t'avais pas été, t'avais pas eu tes troubles, on serait vraiment ennuyés à la maison, donc ça aurait pas fonctionné.
Parce que ces enfants, ils ont aussi plein d'autres qualités, voilà. Et c'est pas forcément que de l'inclusion, c'est pas forcément que des difficultés, c'est pas forcément que des angoisses, c'est aussi parfois des plaisirs, et ça faut pointer ça, parce qu'on le pointe jamais, mais c'est des enfants extraordinaires, et ça faut le dire.
Des fois on voit bien justement ce fardeau aussi qu'ils portent aussi, et on leur dit mais tu sais tellement faire des choses brillantes. Et puis sur les enfants autistes, des fois quand on parle de justement qu'est-ce que c'est l'autisme, c'est trop, et on leur dit mais vous ça veut dire trop d'amour, ça veut dire plus de joie, plus de beaux sourires, donc c'est trois fois plus beau.
Alors, moi, ma vision là, de ce que j'ai vu ce matin, d'accord, c'est un dédale, un labyrinthe de structures, de sigles, totalement hermétique pour quelqu'un qui n'a pas mis le petit doigt ou qui n'a pas commencé à tirer la pelote de laine. D'accord. Donc, imaginons une famille, bien sûr, des parents, qui se trouvent avec un enfant qui est un peu différent, bien sûr. Hein, pas forcément énormément différent, mais un peu différent. Comment elle doit faire? Comment ça se passe? Moi, c'est ma question.
C'est la problématique. C'est pour ça qu'il faut aider les familles. On les appelle des aidants, justement, parce que c'est cette problématique. Il faut les accompagner, il faut les soutenir dans l'accès aux droits, il faut alléger toutes leurs angoisses et toutes ces problématiques de structure, d'institut, et relativiser. Il serait important d'arrêter de pointer systématiquement un handicap comme quelque chose de générique. Un handicap, le mot handicap, c'est à la base, hein, c'est juste un soutien à quelqu'un qui a moins de possibilités, moins de capacités. Ça s'arrête à ça. Le scolaire est là pour ouvrir les esprits. Et c'est peut-être aussi un peu ça la problématique, c'est que les élèves sont là positionnés sur une chaise pour acquérir des notions, mais je crois qu'il faut avancer dans ce domaine. Et loin de ça maintenant. Et les enfants, plus ça va, plus on a des problématiques avec tout enfant, parce que justement, ils ont besoin de quelque chose de beaucoup plus concret. Et nos enfants seraient beaucoup plus à l'aise dans du concret aussi.
Alors moi je m'appelle Zaya Gassmi, je suis la principale du collège Georges Pompidou de Passy-sur-Eure et je suis également la pilote de Pial Beuil Passy-Vernon. Donc c'est un gros Pial. Voilà. Et donc j'ai été invitée ici, on a reçu cette invitation pour le colloque de l'école inclusive, et moi je suis très engagée, hein, sur l'école inclusive de par ma mission, hein, forcément, hein, de chef d'établissement, mais aussi parce qu'effectivement c'est des sujets qui sont très prégnants et préoccupants. Donc je pense que tout le monde doit avoir sa part, et c'est très intéressant d'entendre aussi, d'avoir ce temps d'échange et puis d'intellectualiser aussi cette problématique pour ensuite mieux travailler le sujet et faire en sorte de réussir notre mission, c'est-à-dire de permettre l'école à tout le monde.
Oui, moi j'ai bien compris et bien entendu, en fait, vous essayez de mettre en place un certain nombre de, je ne sais pas comment appeler ça, de prestations, d'ouvertures.
Nous, dans nos missions, on a l'obligation d'accueillir tous les élèves, et donc on doit mettre en place les aménagements spécifiques, l'accueil des familles, l'accueil des élèves, l'accompagnement des enseignants, parce que tout à l'heure, il y a la directrice qui évoquait, donc la directrice qui a mis en place la classe flexible, que c'était aussi une question de volonté. Effectivement, il y a une volonté aussi derrière d'impulser cette mobilisation pour l'école pour tous. Et effectivement, c'est très important de le faire là, en ce moment, parce que c'est un sujet qui de plus en plus prend de l'ampleur. On a de plus en plus d'élèves qui sont repérés, et c'est très bien. Donc ça, c'est une chance. On a aussi malheureusement des élèves qui ne sont pas repérés officiellement, mais on a quand même des enseignants de Tout à l'heure, il y a beaucoup de critiques au niveau de l'école, mais on a quand même beaucoup de professeurs qui sont, la majorité des professeurs sont engagés dans le handicap et font au mieux pour mettre en place des adaptations. Et ils savent aussi maintenant repérer des élèves qui en ont besoin, qui ne sont pas forcément détectés officiellement, mais qui sont repérés, on met en place des aménagements. Donc ça, ça se fait. Il y a encore beaucoup à faire, hein, c'est sûr. Et donc nous, au Collège de Passy, on a la chance, effectivement, ça a été fait par mon prédécesseur, donc, avoir des espaces, effectivement, plus ouverts, plus accessibles, plus autonomes, qui correspondent à tous. Hein. C'est vrai que quand on travaille pour des élèves à besoins particuliers, des élèves handicapés, ça permet aussi de travailler dans la globalité et pour tout le monde. Et c'est vrai que les espaces au Collège de Passy, c'est très agréable. On ne peut pas le faire dans les classes, c'est pas possible parce que sinon il faut pousser les murs. Mais déjà, ne serait-ce que sur les espaces hors temps classe, c'est aussi des moments très importants où les élèves peuvent faire leurs devoirs. Donc ils ont des espaces autonomes, dits zen, de travail, où c'est des aménagements flexibles, ils peuvent travailler différemment. Et ça, c'est important, même pour même si c'est pas dans la classe, ça permet aussi de contribuer au bien-être et à l'accueil de tous les élèves. Il y a aussi quelque chose de très important qui a été fait cette année, qui a été impulsé par Madame la Rectrice, c'était l'accueil la rencontre des familles avec les AESH. Donc ça a été fait dans les deux premières semaines de la rentrée. Ça a été un moment fort. Important pour les familles, parce que effectivement, on fait un focus et on leur attache une attention très particulière et elles en ont besoin. C'était aussi très valorisant pour les AESH. Ils ont eu le sentiment d'avoir vraiment une belle reconnaissance au travers de leur fonction dans le collège. Et c'est vrai que on va le développer.
Bien, je vous remercie beaucoup. Merci à vous. Et puis bon retour à Passy.
Merci, oui, c'est gentil.
Au revoir.
Je voulais parler un peu des freins aussi, qui sont les classes forcément surchargées. Et ça, on le comprend. Sur les enseignants aussi qui sont quelquefois en difficulté, qui ne savent pas faire. Donc on le comprend. Il ne s'agit pas de stigmatiser les enseignants. Je pense qu'ils font, moi je connais des enseignants formidables, il y en a énormément. Ils font vraiment ce qu'ils peuvent avec les moyens qu'ils peuvent. Donc je pense qu'il faut qu'on axe aussi sur une meilleure coopération entre le médico-social, entre les associations, les familles. Alors n'ayez pas peur des parents, on n'a jamais mangé personne. Et je pense que quand on se connaît mieux, on travaille mieux ensemble. Alors évidemment dans le respect, hein, je suis attachée quand même au respect, et que chacun aussi reste aussi dans sa fonction. Un enseignant est un enseignant, un parent doit rester un parent, et un élève, quel que soit son statut, est un élève. Donc je ne vais pas vous embêter plus longtemps, je finirai avec ma petite phrase. Donc je finirai juste par un petit mot que j'ai entendu du président du comité international paralympique, qui est Andrew Parsons, qui avait dit dans son discours, j'ai chopé comme ça, j'en ai beaucoup plus, les obstacles doivent devenir des opportunités. Donc je pense qu'aujourd'hui, on a peut-être mentionné quelques obstacles, on a mentionné la créativité, l'innovation, et bien en fait, on se tourne vers les opportunités, donc travaillons vraiment ensemble, partenariat pour faire évoluer cette école inclusive au profit de tous. Voilà, bonne fin de journée. Merci.